Bonjour à tous. Très heureuse de vous voir, d'être avec vous. Et ce n'est pas seulement des paroles. Je suis sincèrement heureuse d'être dans la famille de Dieu et d'en faire partie. Et je remercie le Seigneur qui nous permet de partager autour de sa parole. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire pour notre prochain ? Jusqu'où irions-nous ? Par amour pour notre prochain, voire notre ennemi. Le titre de ce message ce matin, il a tout donné, es-tu prêt à le recevoir? Nous allons lire une parabole dans l'évangile de Matthieu. Il y a beaucoup de paraboles dans la Bible, ce sont des comparaisons tirées de la vie courante, utilisées pour faciliter l'enseignement que Jésus voulait apporter concernant son royaume, c'est-à-dire tout ce qui concerne la relation à Dieu, ce que Dieu attend de l'homme, ce que l'homme peut attendre de Dieu et comment vivre selon sa volonté. Dans la parabole des vignerons, Jésus nous amène à découvrir le plan que Dieu avait conçu et mis en place de toute éternité pour répondre aux besoins de l'homme et le conduire vers le Père et comment l'homme a reçu son message. Alors, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 33, Jésus s'adresse aux principaux sacrificateurs et aux chefs du peuple. Je n'ai pas mis la parabole, elle est trop longue. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir à raisins et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand vint le moment de récolter le raisin, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa récolte. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, battirent l'un, assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que la première fois. Mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en pensant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons, tuons-le et nous aurons son héritage ». Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Nous allons aborder 4 points dans ce message. Dieu choisit un peuple pour se révéler au monde. L'échec du peuple, Dieu donne le meilleur pour réaliser son plan, et en dernier point, Dieu offre le royaume à ceux qui portent du fruit par la foi. Un propriétaire plante une vigne, c'est son choix, son désir, il le fait lui-même, il le fait dans un but bien précis, celui de récolter du fruit. On remarque tout ce qu'il met en place pour prendre soin de sa vigne. Il l'entoure d'une clôture pour la protéger de tout ce qui pourrait l'abîmer. Il donne tout ce qui est utile pour travailler à la vigne et récolter le fruit de celle-ci. Il creuse un pressoir et enfin il bâtit une tour de garde pour veiller au bon développement de la vigne et que personne ne puisse l'endommager. Puis le maître s'absente et confie sa vigne à des vignerons, ce qui montre qu'il fait confiance à ceux-ci pour faire ce qui leur a été demandé. Les vignerons sont des personnes expérimentées et sont tout à fait au courant de ce qui concerne le travail de la vigne. Aussi, on peut dire que le maître n'a pas laissé sa vigne à n'importe qui. Il savait ce qu'il faisait et a choisi les personnes susceptibles de faire leur travail correctement. En tout cas, c'est ce qu'il attendait, car il dispose de tout ce qui est nécessaire au travail qui leur a été confié, le maître ayant déjà tout préparé. Quand vient le moment de la récolte, les choses ne se passent pas comme aurait pu l'espérer le propriétaire. Les serviteurs censés récupérer les bénéfices de la récolte se voient rejetés, assassinés et lapidés. On remarque que les vignerons, par leurs actions, manquent de respect vis-à-vis du maître et qu'ils n'ont aucune crainte de lui. J'espère que nous, chrétiens, nous avons du respect pour ceux qui sont nos patrons, nos supérieurs et toute personne élevée en dignité. Le maître ne se décourage pas. Il patiente et envoie de nouveau d'autres de ses serviteurs. Le résultat est le même. Le maître persévère dans sa démarche et, dans sa dernière tentative, il décide d'envoyer son fils. Le fils représente le père et le propriétaire attend qu'il soit respecté en tant que tel. Il le dit, « Ils auront du respect pour mon fils ». Le propriétaire fait confiance à son fils pour trouver auprès des vignerons le respect qui lui est dû et l'obéissance. Il n'en saura rien. Et le texte nous dit qu'il sera traité de la même manière que ses serviteurs. Je me suis demandé ce que j'aurais fait si j'avais été le propriétaire. Personnellement, j'y serais allé la première fois où les serviteurs ont été battus et assassinés, et j'aurais châtié ces misérables. J'aurais eu le pouvoir de le faire et la justice aurait voulu que cela se passe ainsi. Ce n'est pas ce que le maître a fait, bien qu'il en eût tous les droits. Il a usé de patience. Il a renouvelé ses demandes malgré ce que cela lui coûtait. Et il a fini par donner ce qu'il avait de meilleur, son fils. Et cela, dans l'espoir qu'il serait mieux traité que ses serviteurs. Dans cette parabole, le maître de maison, c'est Dieu. Sa vigne, c'est Israël. Les serviteurs, ce sont les prophètes à qui Dieu avait donné la responsabilité de conduire le peuple et le garder dans les commandements qu'ils avaient reçus de Dieu. De même, Dieu nous a confié sa parole. Il nous a donné son esprit et il est lui-même avec nous. Nous possédons tout ce qu'il nous faut pour faire sa volonté et accomplir les œuvres qu'il a préparées pour chacun d'entre nous et rendre à Dieu ce qui lui revient. Les vignerons, ce sont les Juifs qui sont responsables de tout ce que Dieu leur a donné pour pouvoir le servir, honorer son nom et lui rendre gloire. Cela nous rappelle la parabole des talents où Dieu fait des dons à ses enfants avec la responsabilité de faire fructifier ses dons pour l'avancement de son royaume. Nous, chrétiens, nous avons reçu des dons de Dieu et des talents pour le servir. Et Dieu attend de nous que les fassions fructifier avec son aide plutôt que de les cacher par peur, par paresse ou par indifférence. C'est par l'obéissance que son peuple était assuré de la prospérité et la faveur de Dieu. C'est ce qui a tiré sur eux les bénédictions. Et le peuple, guidé par les serviteurs envoyés par Dieu, disposait de la loi, de tous les préceptes et les ordonnances données par Moïse pour avoir une vie qui honore le nom de l'Éternel, une vie qui porte du fruit, afin que par leur obéissance et les bénédictions qui en découleraient, les autres nations connaissent Dieu. Dans cette parabole, Jésus s'est inspiré d'un texte dans Ésaïe, qui lui aussi parle de sa vigne. « Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile, il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. » Et on voit également dans la Genèse au chapitre 2 le même genre d'histoire. L'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu est une sorte de jardinier. Il plante un jardin avec tout ce qu'il faut et le confie à la race humaine. Il plante une vigne et la confie à son peuple en lui procurant le nécessaire pour en rendre les fruits. Comme tout jardinier, lorsqu'il plante, il attend une récolte, car il a mis tout en œuvre pour cela. Dans la Genèse, Adam et Ève ont failli à la mission que Dieu leur avait assignée. Dans la parabole des vignerons, on constate la même chose. Cette parabole s'adresse aussi à nous, chrétiens, aujourd'hui, pour nous amener à prendre conscience de notre responsabilité, la même que Dieu attendait d'Adam et Ève lorsqu'il leur a confié la terre pour en être les gardiens. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, allons-nous faillir hein? Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons les nombreux appels où Dieu, par les prophètes, tentait de ramener le cœur des enfants vers leur père. Dans Jérémie, nous avons un exemple de l'attitude du peuple face aux paroles de l'Éternel. « Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles. Eux, vers qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils n'ont pas écouté. » Et on découvre en lisant l'Ancien Testament comment le peuple a refusé d'écouter le message des prophètes et comment certains ont dû faire face à l'incrédulité, être rejetés, emprisonnés, voire tués. Dieu n'a de cesse de vouloir ramener son peuple au courant vers lui, tantôt leur accordant de nombreuses bénédictions, tantôt permettant qu'ils soient emmenés en captivité ou exilés loin de leur terre. Sommes-nous sourds quand Dieu nous parle ou sensibles à sa voix? Notre vie reflète-t-elle la sainteté de Dieu ou déshonore-t-elle notre Sauveur? Portons-nous du fruit dans nos vies pour être sel et lumière sur la terre ou notre témoignage laisse-t-il à désirer? J'aimerais qu'on s'arrête sur l'adjectif possessif « mon ». Le propriétaire dit « j'enverrai mon fils ». Derrière ce petit mot, on peut voir que le fils est seul, sinon il aurait dit « j'enverrai un de mes fils ». C'est le sien, il lui appartient et on suppose qu'il est l'objet de son amour dans le meilleur des cas. On le lira dans Matthieu aussi au chapitre 3, verset 17. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Ce verset est encore plus explicite et détaillé. On retrouve l'adjectif possessif « mon » et il y est ajouté « bien-aimé ». Là, on n'a aucun doute. Il est son bien-aimé et non seulement cela, mais pour montrer l'amour qui règne dans cette union, il nous est dit que en lui, en ce fils bien-aimé, il s'y trouve toute son affection. L'amour du Père est dans le Fils. Cela nous montre quel lien formidable unit le Père et son Fils. Et c'est là l'histoire de la crèche à Bethléem, où sur un petit tas de foin gesticule un nouveau-né dans lequel se trouve l'amour infini du Père. Il revêt notre humanité, se dépouille de sa gloire, quitte cette proximité qu'il avait avec son Père et vient dans sa vigne pour accomplir la mission que son Père lui a demandé d'accomplir. Le Père l'envoie pour récolter les fruits que la mission des prophètes devait rapporter. Le Père a déjà envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour prendre soin de sa vigne et en récolter les fruits. Mais le résultat, une fois de plus, n'est pas celui escompté. C'est pour cela qu'il envoie son Fils, ce qu'il a de plus cher, de meilleur, et que d'ailleurs le peuple attendait, car la venue du Fils avait été annoncée il y a de cela des centaines d'années et à plusieurs reprises. Le peuple attendait, l'espérait, et pourtant il ne lui fera pas l'accueil qu'il était digne de recevoir. Et Paul dira, « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Et bien que le Fils se soit incarné et grandi parmi les siens, parcouru les villes de la Judée, de la Galilée, qu'il ait enseigné, accompli des miracles et des prodiges, les siens ne l'ont pas reçu, nous dit Jean. Quel amour peut accepter un tel sacrifice? Quel père peut livrer son enfant, son unique, à la boucherie, à la sauvagerie des hommes? Dieu l'a fait. Il l'a fait alors que son cœur saignait devant les coups de fouet, devant les moqueries, les clous qui s'enfonçaient dans son corps ensanglanté et qu'il assistait à son agonie, et cela jusqu'à sa mort. Et nous savons tous que c'est par amour pour nous qu'il l'a fait. Tout ce qu'on trouve d'amour dans ce monde a sa source en Dieu. Nous ne connaîtrions pas la signification de l'amour si Dieu n'était pas lui-même amour dans son essence. D'ailleurs, quelqu'un a dit, si vous cherchez la signification du mot amour, ne cherchez pas dans le dictionnaire, mais au calvaire. Cela nous dépasse et pourtant c'est la réalité. Et c'est cela le message de Noël. C'est son amour de père qui lui a dicté sa décision. Il n'y avait aucune contrainte, aucune hésitation, aucune retenue, aucun regret de la part de Dieu lorsqu'il a livré son fils. Il savait que c'était la seule solution pour répondre à sa justice. Au lieu de châtier les vignerons qui le méritaient, le maître a envoyé son fils. Au lieu de nous châtier pour nos péchés, Dieu a envoyé Jésus, tout en sachant ce qu'il l'attendait. Le Fils est venu, il nous a montré le Père, par son enseignement, par ses miracles, par son attitude et par l'amour qu'il a manifesté tout au long de son ministère, et cela jusqu'à la croix. Alors j'ai plusieurs questions que je me suis posées également à moi-même, bien sûr. Et nous, quelle est notre attitude à l'écoute de l'Évangile ? Est-ce que nous le recevons dans toute son autorité, dans toute sa vérité, en rendant compte à Dieu de ce qu'il nous a confié ? Est-ce que nous obéissons à sa volonté et le laissons changer notre cœur ? Est-ce que le Fils nous trouve tel qu'il le voudrait ? Ou rejetons-nous ses commandements, sa parole? Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous? Jésus est-il accueilli comme il le devrait, ou à l'instar des vignerons, nous rejetons sa demande, nous passons outre ses appels, ses directives, sa seigneurie? Les vignerons, dans la parabole, ne voulaient rendre compte à personne. Ils voulaient garder le produit de la vigne et faire ce qui leur plaisait. Parfois, nous aussi, nous désirons les bénédictions, les miracles, les guérisons. Mais lorsqu'il s'agit de pardonner, de faire grâce, de se remettre en question, nous voulons qu'on nous laisse tranquille, décider de ce qui nous convient égoïstement et avec présomption, croyant n'avoir besoin de personne et sans dépendre de Dieu. Et parce que Dieu, dans sa patience, nous laisse le temps de prendre conscience de nos fautes et de nos égarements, nous nous sentons dégagés de nos responsabilités. Que dira Dieu dans le psaume 50 devant le péché de son peuple ? Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Dieu est patient plus que ce que nous le méritons, mais il agit avec justice, et pour nous empêcher et nous égarer, de nous éloigner de lui, il intervient dans notre cœur, dans notre vie, pour nous ramener vers lui et ne pas être livrés à nous-mêmes. Il sait trop bien de quoi nous sommes capables sans sa grâce et l'action de son esprit. N'attendons pas que Dieu soit obligé d'user de sévérité avec nous. Examinons notre conscience et capitulons devant l'amour qu'il nous manifeste en nous faisant prendre conscience de nos péchés. Puis, délaissons-les, abandonnons à Dieu ce qui lui revient, sachant que son amour de Père nous accueillera toujours, comme le Père dans la parabole du fils prodigue où le Père court vers son fils et l'accueille avec tant de joie. Sommes-nous plus forts que Dieu ? Nous dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Non, nous sommes des êtres faibles qui avons besoin de Dieu. C'est là notre sécurité. Et il n'est pas de péché trop grand, de fautes trop graves qui ne puissent être pardonnées. Seulement, ne rejetons pas le Fils. Il a déjà connu le rejet pendant son passage parmi nous. Il a dû faire face à tant d'opposition, tant de résistance et d'incrédulité alors qu'il cherchait à sauver les âmes de la perdition. Dès la création, alors qu'Adam et Ève avaient désobéi, Dieu fait une promesse. Quand il dit dans Genèse au chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La mort de Christ est le moyen par lequel Dieu a accompli cette promesse faite au moment de la chute. C'est cette mort sanglante qui a brisé pour toujours la puissance du prince de ce monde, de Satan, à la croix. Et David, dernièrement, nous a expliqué que quand Dieu pose cette question à Adam, « Où es-tu ?», il nous cherche inlassablement pour nous ramener vers lui. Il n'y a ni jugement, ni condamnation, mais un appel pour retrouver la communion avec notre Père. Dieu nous a donné la liberté et il ne nous la retirera pas. Cependant, s'il nous voit sur une pente glissante, il tentera de nous avertir. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter, nous ne connaissons pas notre avenir. Dieu, lui, sait de quoi il est fait pour chacun de nous et il sait que nous ne nous en sortirons pas sans son aide, sans sa grâce. Du verset 40 au verset 46, nous voyons la conséquence du rejet du peuple de Dieu. Dieu avait tout planifié, tout préparé, en équipant son peuple pour le faire connaître, le servir et lui rendre ce qui lui était dû. Sa désobéissance et le rejet du Fils a amené un jugement sur le peuple. Cette sentence fut exécutée quelques années après, avec la destruction de Jérusalem. Aussi, Dieu a retiré ses grâces et ses bénédictions et les a données à d'autres. Suite à leur incrédulité et le rejet du Fils par les Juifs, une porte s'est ouverte pour les païens dont nous faisions partie. Les Juifs se sont heurtés sur la pierre principale, c'est-à-dire Jésus, qui est le fondement de la foi et qui soutient l'édifice, comme la pierre d'angle soutient l'ensemble d'une construction. Le rejet du Fils par son peuple nous a ouvert l'accès vers Dieu, et l'édifice que Dieu a construit à partir de ce rejet, c'est l'Église. Un peuple qui croira, acceptera le Fils de Dieu et portera des fruits à sa gloire, l'amour, la reconnaissance, l'obéissance et la sainteté. C'est ce qu'avait espéré Dieu lorsqu'il a planté sa vigne et qu'il l'avait confiée aux vignerons. Lorsque les vignerons ont tué le Fils, ils pensaient rester les possesseurs du royaume. Leur incrédulité et leur jalousie les a privés de ce privilège et nous en sommes les bénéficiaires aujourd'hui. Cependant, Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Il reste son héritage et Dieu continue à agir dans sa vigne qu'il a plantée et lui réserve des bénédictions à venir quand celui-ci reconnaîtra en Jésus son Messie. Israël est la prunelle de ses yeux et il ne lui retirera jamais son amour. Alors pour conclure, les appels de Dieu ne sont pas « Au secours, je suis perdu », mais « Au secours, vous êtes perdu. Vous avez besoin de moi et de ma grâce. » La venue de Christ, sa mort, sa résurrection était le seul moyen que Dieu pouvait agréer. Le moyen est venu de Dieu pour nous et il est encore à notre disposition, car c'est encore aujourd'hui le jour du salut. Tout comme le Maître a fait grâce au vigneron en envoyant son Fils, il nous fait grâce aujourd'hui. Nous sommes encore sous le temps de la grâce. Dans le chant Amazing Grace, cela est traduit par merveilleuse grâce, grâce confondante, incroyable pardon, grâce infinie, incroyable grâce. Ce mot renferme tout l'amour du Père qui vient au-devant du pécheur perdu, qui le rejoint dans sa misère la plus profonde et apporte avec lui un autre mot qui permet de résister dans les moments les plus noirs de notre vie, l'espérance. Alors, allons-nous répondre à son appel? Appel à venir à lui, appel à le laisser changer nos cœurs. Allons-nous rejeter cette grâce ou allons-nous l'accueillir, nous en saisir et la recevoir? Amen.